Crío cuervos.
Crío cuervos.
Crío cuervos.
Crío cuervos.
Crio cuervos, se veut un espace pour rendre visible ce que l'on cache dans les systèmes du pouvoir et au plus profond de nous, ce qui nous fait peur et nous fait obéir. Un témoignage de nos tristesses, de nos joies, de nos défaites et de nos victoires. Une expression de la douleur qui nous fait sentir vivants ou qui nous crève. Un pot de la pétarade euphérique qui nous fait exister. Un lieu pour détruire tous ces bétons et ces barbelés qui encerclent nos têtes. Un temps pour échanger des savoirs et des expériences, pour se réarmer et vivre selon nos désirs. Un temps pour parler comme on l'entend, en se contrefoutant des codes policiers de l'expression raisonnable. Un espace où les filets de casque ont libre antenne, alliant vers la révolte. Crio Cuervos prétend être un outil de résistance au pouvoir psy, un élan vers des pratiques collectives dans un processus de libération de la psychiatrie. Notre passion est diagnosticable, notre passion n'est pas diagnosticable.
Bien. Petit Larsène, bonjour petit à tous pour cette nouvelle émission. Petite ambiance sonore. Du coup, aujourd'hui, on va déjà vous présenter quelques brèves bien choisies. Ensuite, on parlera de l'Assemblea de Mararas, qui est une assemblée de fous à Barcelone. On prendra un peu de temps pour vous présenter ce groupe. Ensuite, on parlera d'un groupe d'Allemagne qui s'appelle Iron Offensive. Peut-être avec l'accent, c'est mieux.
Lège seulement, Irn Offensive.
Ah oui, ah oui. Et puis notre dernier thème, on parlera de l'hyperactivité et de ce joli médicament qui s'appelle la Ritaline. Et du coup, on s'écoute un petit morceau de musique si la technique.
Consent à ne pas trancher dans le vif du sujet en permanence.
Sinon, on peut peut-être commencer.
C'était vraiment. Un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux. Que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard et voilà.
Monsieur William, vous manquez de tenue. Qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue?
Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes. Monsieur William, il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir.
Monsieur William, vous manquez de tenue. Qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue?
Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone. Chantant la peine des âmes, un un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues.
Monsieur William,
et hop, 13e avenue. Du coup, voilà les brèves. Alors, moi, j'avais bien envie de vous parler de Fondamental. Fondamental en un mot, mais avec une majuscule au milieu, parce qu'ils ont quand même la prétention d'être majuscule. Qu'est-ce que c'est Fondamental ? C'est une, ils se disent, une fondation de coopération scientifique dédiée aux maladies mentales, qui a notamment pour ambition de faire des maladies psychiques des maladies comme les autres.
Magnifique.
Donc je vais vous en faire une présentation pas du tout objective, je vous préviens, parce que et je vais pas, je vais choisir que les perles de leur site web, parce que bon, les baratins habituels sur le patient qu'il faut réhabiliter dans sa vie psychosociale, je pense qu'on n'a pas besoin de l'entendre encore. Mais eux, ils ont quand même quelques petites spécificités sympathiques. Fondamental, ça a été créé en juin 2007. Ils ont trois chevaux de bataille, que sont la schizophrénie, les troubles bipolaires et l'autisme de haut niveau, parce que quand on a deux majuscules, on ne fait pas dans le bas de gamme. Et donc l'autisme de haut niveau, c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome d'Asperger. C'est ces caricatures de génie surdoué qui vous citent
c'est Rain Man.
Les 25 derniers coups aux échecs. Voilà, c'est ça. Avec des grands cerveaux qui vont dans tous les sens, donc qui sont très intéressants à étudier.
Mais ils sont bien parce qu'ils n'ont pas d'affect.
Voilà.
Voilà.
Dans une neutralité tout à fait scientifique. Et donc Fondamental, donc voilà, ils promeuvent la recherche, ils promeuvent notamment l'interaction des soignants et des chercheurs dans des équipes pluridisciplinaires qui ont, par exemple, quel miracle, les mêmes standards d'évaluation par pathologie, ce qui permet une fluidité scientifique où on va tous avoir la même vision de la schizophrénie, des troubles bipolaires, etc. Et donc qui permettent une prise en charge dans leur centre expert, toujours avec deux majuscules, des personnes qui viennent soit pour se faire soigner, soit en formation. On a la chance de ne pas avoir de centre expert en Midi-Pyrénées, mais sinon il y en a quand même un certain nombre en France qui se trouvent soit dans des cliniques, soit dans des hôpitaux publics. Ils se disent dispositifs innovants et précurseurs d'une politique de soins et de prévention. Et donc, voilà, c'est l'idée d'un cluster de scientifiques qui va prendre bien soin des pathologies et des patients pour arriver à en tirer la substantifique moelle et notamment arriver à mettre en place des dossiers médicaux informatisés et partagés pour enrichir les travaux de recherche clinique, épidémiologique et médico-économique.
Avec tout le respect de la confidentialité.
Voilà, et puis surtout, c'est un biais idéal pour arriver à mettre tout le monde à plat sur les dossiers informatisés qui traînent encore actuellement, qui n'arrivent pas à être mis en place réellement dans les hostos, quoi. Et donc, ils ont pour ambition de faciliter le travail des praticiens, c'est quand même ce qui est cité en premier. On verra bien que le patient, il passe au deuxième plan, le patient ou la personne désinguée. Ils disent aussi que leurs travaux feront à terme reculer les troubles psychiques.
Oh, quelle ambition, c'est beau.
Qu'est ça, hein.
Les super warriors. Voilà, et donc, il y avait une petite brève qui surgissait. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils proposent une formation à la psychoéducation des troubles bipolaires pour les psychiatres, les psychologues, les infirmiers et les cadres. Tout ça, tout ce baratin, juste pour une journée, donc 7 heures de formation, entre guillemets, pour arriver à mieux faire connaître la maladie. Je vais vous citer leurs axes de bataille. Mieux faire connaître la maladie, éduquer sur le rôle de la médication, reconnaître les facteurs de risque et de protection, les signes précurseurs de la maladie, établir une régulation, celle-là elle est jolie, établir une régularité des habitudes de vie dans la vie de tous les jours. Parce qu'on ne sait jamais, la vie des fois
pas tous les jours.
Ne surgit pas tous les jours. Et aussi pour développer des stratégies afin de se protéger des épisodes de maladie.
On peut relever le champ sémantique qui est utilisé quand même, tous les termes en vogue
tout à fait
actuels.
Bon. Voilà, ils sont très en vogue actuels. Cette approche a démontré son efficacité, c'est-à-dire la baisse du taux de rechute et une meilleure adhérence au traitement médicamenteux. Faites gaffe, vous allez avoir du risperdal collé partout. Et voilà, c'était Fondamental.
Ouais, merci Fondamental, il nous prévoit des bonnes choses dans l'avenir. Du coup, moi, je voulais faire une toute petite brève. Il y a un petit livre qui est sorti. Alors, c'est un livre écrit par deux psychiatres qui, à l'époque, étaient employés à l'Institut Necker. Et en fait, ils font un petit coup de gueule contre l'industrie pharmaceutique en resituant quand même que sur la plupart des médicaments que nous prenons, il n'y a que 40% qui sont reconnus ayant une efficacité faible ou nulle et 25% un risque potentiel et 5% un risque majeur. Donc en gros, il y a un médicament sur deux qui est reconnu efficace. Tout le reste, ça devient soit inefficace, soit dangereux. Tout ça pour dire quand même que 70% de tous ces médicaments sont remboursés par la Sécurité sociale et que donc la Sécurité sociale cautionne un système qui n'a pas de validité, juste pour rappeler le scandale du Mediator en 2011 et ce système de corruption que sont les laboratoires pharmaceutiques et le système étatique qui cautionne tout ce trafic d'argent juteux.
C'est marrant qu'ils sont capables de reconnaître ça. On se dirait comme c'est les vraies statistiques, parce qu'ils disent que la moitié, c'est des médicaments qui ne servent à rien. On va bien se demander qu'est-ce que c'est la vraie vérité. Toi. Si eux, ils disent ça, peut-être c'est encore pire. Toi. Mais c'est déjà pas mal ouais, comme première démarche. Ouais. Et on a une autre bref, c'est un peu con comme d'habitude, mais voilà, on va la faire parce que c'est bien.
C'est le Figaro.
Non, j'ai trouvé une autre qui s'appelle, ça vient de Boissy, voilà. Voilà, c'est un magazine People Internet. Voilà, et voilà, la bref s'intitule « Victime des squatteurs, les raisons de l'hospitalisation de Loana à Sainte-Anne ». Voilà, c'est quoi cette histoire, victime des squatteurs, pourquoi et tout ça. Alors ouais, tout à fait, qu'est-ce que c'est cette histoire, tu vois, pourquoi Loana, elle a été hospitalisée, qu'est-ce que c'est les rapports avec les squatteurs. Alors voilà, moi, avec ma petite tête un peu perturbée, je me suis posé quelques questions du genre, des squatteurs provoquent des hospitalisations dans les gens du bien comme Loana, ou est-ce que c'est dangereux de traîner avec des squatteurs, ou l'or psychiatrique emploie les jeunes squatteurs pour remplir Sainte-Anne. Et c'est pas tout à fait ça. Apparemment, ce qui s'est passé, parce que voilà, j'ai lu bien de l'article. Alors, il y a un pote à elle, ce qu'il vient d'expliquer, c'est que voilà, c'était l'anniversaire d'une copine d'elle. Ça, c'est pas très clair dans l'article, excusez-moi. Et ce qu'il vient de dire,
c'est. C'est pas c'est pour ça. Non. Pour pas qu'on sache.
Voilà. Ça doit être ça. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que Loana, elle a fait. Ah, que d'ailleurs, il faut dire, parce que peut-être vous savez pas, mais voilà, Loana, c'est la gagnante du premier Love Story. Voilà, ça, ils savaient pas, mais voilà, il faut être au courant, ça va être une énorme star. Alors, cette Loana, c'est qu'elle a fait, c'est que c'est l'anniversaire de quelqu'un. Bon, elle a fait la fête. Et le lendemain, elle a invité, bon, c'est les soirs même, elle a invité des gens chez elle, mais qu'elle connaissait pas trop. Alors, le lendemain, elle s'est retrouvée avec.
Des relous.
Avec des relous, et en plus, avec des gens qui l'ont piqué des trucs, tu vois. Alors voilà, on se pose la question déjà, qu'est-ce que c'est de ces squatteurs, si c'est les gens qui viennent chez toi, ils te piquent des trucs ou qu'ils restent là une semaine. Bon bref, c'est assez marrant comme on utilise en français, ça ils savaient pas, tu vois. Mais apparemment, squatter en français, ça veut dire aussi traîner dans un endroit un petit moment et tout ça. En tout cas, moi ça m'a sauté aussi qu'on utilise les termes squatteurs. Et bien évidemment, ils parlent jamais de pourquoi Loana elle va pas bien ou pourquoi elle a été hospitalisée, tout ça.
Voilà. C'était un bel amalgame du terme, c'est vrai.
Ouais. Et tout ça. Ah ouais, on va continuer alors avec des trucs un peu plus sérieux peut-être.
Ouais, direct l'Allemagne, donc forcément c'est sérieux.
Ouais.
Moi j'avais envie de vous parler parce que c'était l'occasion, parce que l'émission se construisait comme ça petit à petit, d'un groupe que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il y a quelques années, quand je suis allée à Berlin, c'est un groupe qui s'appelle Iron Offensive, qui moi m'a interpellée parce que d'une, c'est un groupe d'usagers qui dès le départ, de personnes passées par la psy, qui dès le départ pose ça vraiment comme un principe important. Donc quand je dis dès le départ, c'est-à-dire que ça remonte à 1980 quand même, où ils ont monté leur groupe, ils ont d'abord décider que toutes les prises de décision à l'intérieur du groupe, ça serait que par les personnes passées par l'HP. S'il y avait d'autres gens, ils avaient leur mot à dire, mais ça pèserait pas de la même manière. Et une de leurs premières décisions, ça a été de squatter un bâtiment qui s'est voulu un lieu d'accueil pour les gens en errance et aussi des gens qui avaient fugué de l'HP, etc. Ils ont aussi publié un journal qui continue d'ailleurs à apparaître. qui tire à 10 000 exemplaires quand même, mais parce que c'est avec la thune des syndicats étudiants de Berlin, là. Voilà, donc ça aide. Donc voilà, il y a un petit historique que je vais vous faire rapidos, puis après je vous présenterai pourquoi il y a des trucs intéressants, pourquoi il y a des trucs bien chelous dans ce groupe. Donc voilà, hop, 80, ils squattent un bâtiment, 83, ils se font expulser, et au même moment, il y a Bisbee dans le groupe, parce que surgit, comme surgit des cieux, un don de 1 million de marques par un généreux donateur dont le fils était mort en psychiatrie. Et là, c'est quand même un groupe, quand on lit ses écrits, il faut souvent du tadam en arrière-fond pour mettre un peu l'ambiance.
Ils font tadam, comment
tadam. Voilà, et donc, problème, le drame. Parce que forcément, pour arriver à gérer 1 million de Deutschmark, ils ont créé des postes salariés, etc. Et du coup, il y a scission entre les gens qui vont partir sur cette idée de créer une structure avec cette thune-là, avec des salariés, etc. Et du coup, qui se dépolitisent gentiment, mais qui quand même fondent une espèce de structure d'accueil qui se dit antipsychiatrique pour des gens qui sont à la rue, qui sont en crise, etc. Ça, j'en parlerai sans doute plus une autre fois, parce qu'il se trouve que l'année dernière, ils ont fait un congrès international de gens passés par l'HP et qui réfléchissaient aux alternatives à la psychiatrie, notamment de l'entre-soi, etc. Donc il y a plein de trucs intéressants. Mais c'est pas d'eux que je vous parle aujourd'hui. C'est de Iron Offensive, qui, eux, sont restés les intègres, qui ont refusé l'argent, mais pas tous les argents, puisqu'ils ont accepté les dons municipaux, qui leur ont permis d'être hébergés dans un local, jusqu'à ce qu'ils fassent un voyage aux USA en 1994 pour rencontrer des groupes anti-psy. Et eux disent que c'est le motif qui a fait que les dons municipaux ont cessé. D'autres motifs moins avouables ne sont pas évoqués, et potentiellement c'est lié à leurs affiliations politico-religieuses, que je vous expliciterai plus tard. Bon, dans le même moment, grosso modo, il y a un groupe local des psychiatrisés de la région qui se crée. Il y a plusieurs antennes comme ça qui se montent un peu autour du même thème. Et trois groupes, donc eux, Iron Offensive, ce groupe local des psychiatrisés, et puis un groupe plus de soutien mutuel, plus axé sur l'insertion, tout ça. Voilà, et donc ce trio-là se rencontre régulièrement et... fait des permanences toutes les semaines dans un local à Berlin où du coup on peut avoir des infos, etc. Comme événement de plus grande ampleur qu'ils ont organisé, il y a eu en 98 le tribunal Foucault à la Volksbühne, qui est le grand théâtre de gauche berlinois, puisque c'était le théâtre de Bertolt Brecht. Et donc voilà, ils ont organisé un tribunal avec des accusés, des... partie civile, des gens comme ça, un vrai tribunal où étaient quand même représentés des gens qui occupaient réellement la fonction. Des psychiatres sont venus se faire tirer à boulet rouge, etc. En 2001, même genre de topo, un tribunal Russell qui questionne les droits de l'homme dans la psychiatrie. Et là, ça devient vraiment leur créneau. Comment un groupe, ils le disent eux-mêmes, hein, comment un groupe de soutien mutuel va devenir un groupe d'activistes des droits de l'homme, puisque leur grand speech, c'est que, alors on est en Allemagne, donc voilà, la psychiatrie est héritière des pratiques nazies.
L'ordre des médecins également, qui est issu, qui a été fondé pendant l'Allemagne nazie et qui était censé défendre l'éthique.
Oui, et bien voilà.
Incroyable. Et comme ça, c'est vrai qu'il y a pas mal des autres organismes qui continuent à être héritiers de ces systèmes.
Ouais. Il disait que notamment, jusque dans les années 90, on retrouvait dans les facs allemandes des gens qui avaient assisté les médecins qui avaient mis en place l'eugénisme sous le Troisième Reich. Quoi. Voilà. La purge n'était pas complète. Voilà. Et donc, eux, c'est vraiment leur credo... la psychiatrie héritière du nazisme, soyons vigilants, c'est une question de droit de l'homme, c'est la torture qui se perpétue. Voilà, et donc en découle leur combat contre les hospitalisations sous contrainte. Et c'est donc voilà leur chef de leur chef
leur fer de lance,
leur fer de lance, voilà, parce que les chefs de bataille c'est leur fer de lance. Et du coup ils sont d'abord partis, alors ça va être un peu juridique mais quand même je trouve ça un peu intéressant, ils sont partis d'abord de la notion, en cherchant l'équivalent français, ça revient à ça, de la personne de confiance. Chez nous, ça a été créé en 2004 sous Kouchner. La personne de confiance, c'est la personne à qui vous dites voilà, moi, je veux, si je perds mes moyens, je ne veux pas être réveillé. Mettons, faisons simple. Donc, ils sont partis de ça. Et donc, l'idée, c'était de confier à une personne le souhait de ne pas être hospitalisé en HP ou de ne pas être cachetonné. Et que cette personne, son rôle, c'était, si vous étiez hospitalisé, de venir rappeler ces souhaits-là à l'ordre. Et ça avait force de loi.
Force de loi, ce qui n'existe pas en France.
Exactement.
Mais c'est quoi, force de loi ?
Force de loi, ça veut dire on est obligé de respecter ça. Parce que, justement, c'est un droit de... un droit de l'être humain, donc ouais, tout ce truc, j'ai peut-être pas assez éclairci, mais les droits de l'homme, indivisibles, inaliénables, on peut pas avoir emprise sur ton corps, ni faire absorber n'importe quoi contre ton gré, t'es maître de ton corps, t'en fais ce que tu veux. Et c'est pas parce qu'il est médecin et qu'il dit c'est pour ton bien, et c'est la charité, nanana, que ça change quoi que ce soit. Donc il y a eu d'abord cette idée de personne de confiance, mais là ils ont déjà sauté une étape parce que depuis, je crois que c'est depuis 80, non pas depuis très longtemps, 2009 je crois, il y a un texte qui est à force de loi et qu'ils essayent de distribuer au maximum, qui s'appelle, alors la patte ferfu, c'est du coup le principe, là ça sera proche plus des directives anticipées de Kouchner. Et donc, le principe, c'est que aujourd'hui, par exemple, vous dites « Ah, je vais remplir ce petit document qui fait juste une page recto verso » et vous dites « Voilà, moi, je veux pas qu'on pose sur moi un diagnostic psychiatrique et je veux pas être interné à l'HP et point barre. » Et ça, ça a force de loi. Donc, si jamais on vient on cherche à vous hospitaliser sans votre consentement, vous sortez ce document et on peut pas vous embarquer. Ça a donné un petit clip sur leur site qui est assez cocasse parce que c'est quand même Nina Hagen. Et là, entendre la voix de Nina Hagen en 2009, quoi, 2011 même, je crois, où on voit en fait un couple danser nu, la valse, c'est hyper romantique, hein, sur une place à Berlin, tac tac, passe un petit couple très propre avec un gamin, on bande les yeux de l'enfant, on appelle les flics déboulent. Et là, deux scénarios sont possibles. Donc, premier scénario, les flics embarquent le couple, ils arrivent à l'HP, le psychiatre dit « Ah non, mais moi, je ne peux pas vous laisser partir. » Des cris, tac, tac, on voit la seringue prête à faire l'injection quasi létale. Et ça, c'est premier scénario où, drululut, la bande se rembobine et le monsieur avait signé sa patte ferfu. Non, d'ailleurs, c'est la dame. Et hop, elle sort son petit document et les flics, tout penauds, sortent comme ça, partent et disent bon, la prochaine fois quand même mettez quelque chose sur vous. Et là il y a Nina Hagen qui surgit avec une espèce de coiffure de miquette incroyable, avec sa voix d'outre-tombe et qui dit eh ben alors si tu veux être fou c'est ton non c'est comment Geisteskrank ihre eigene Entscheidung, ça veut dire grosso modo malade psychique c'est votre choix, c'est ton choix. C'est-à-dire que tu as le choix de dire aussi, mais moi, je cautionne pas ce diagnostic, donc j'ai la liberté de dire, j'en veux pas, fous-moi la paix avec
et
ça.
J'ai le droit d'être tout nu dans la rue.
Voilà. C'est beau, hein.
Et qu'est-ce qui fait que le CRPA, par exemple, en France, ou Advocacy, se sont pas saisis de cette
alors,
forme
grande question que je leur avais posée aussi. Du coup, ils m'avaient dit, ah, bah, si tu veux le traduire, vas-y.
D'accord.
J'avais pas eu trop le temps. Mais ils sont en contact, et je sais pas... Je sais pas ce qu'il en est. Je sais pas si le CRPA... Normalement, ils sont au courant d'après ce qu'ils disaient, mais ça s'est pas saisi. Puis je pense au niveau droit constitutionnel, tu sais, d'avoir des verrous en France qui empêchent... tu vois, que rien que le fait que la loi Kouchner, elle donne pas force de loi aux directives anticipées et à la personne de confiance, ça, c'est un point fondamental de changement, quoi.
Ouais. On n'acte pas ça comme un droit dès le départ, quoi.
Ouais, parce que en France, t'as beau dire, moi je veux pas être réanimé si je suis dans le coma, eh ben, ça reste discuté et discutable par l'équipe médicale.
Ouais.
Donc c'est quand même une grosse différence, quoi.
C'est clair, ouais.
Ah oui, et alors le petit suspense sur le politico-religieux, c'est que ces gens-là sont potentiellement des scientologues, étant de...
Oh my goodness,
c'est bien dommage. Parce que, ben voilà, ils sont en lien à fond avec Thomas Satz, qui est le créateur, quoi, un des fondateurs de l'église de scientologie.
Et que d'ailleurs, il a créé tout super bien aussi.
Voilà, ben, c'est pour ça qu'il se réfère à eux en permanence, en disant la maladie mentale n'existe pas. Et notamment, lui, il avait fait et parlé d'un testament psychiatrique où il évoquait cette possibilité de dire... j'en arrive là, je veux pas être hospitalisé sous contrainte. Quoi. Et tout ce créneau droit de l'homme, on le retrouve chez nos amis scientologues français avec leur commission des citoyens pour les droits de l'homme, qui se veut antipsychiatrique et anti-médoc, etc., exactement sur ce créneau. Quoi.
C'est, ouais, quand tu dis ami, on va mettre des guillemets, car oui, il y a des gens qui ne comprennent pas trop les sarcasmes
oui,
et tout
pardon.
Ça.
Petit journal qui s'appelle Le Déchaîné et qui est diffusé.
Arrête, on va croire qu'on fait de la paix.
À Toulouse.
Non, c'est pour. C'est...
Pour se méfier si vous tombez dessus.
Ouais, voilà. Warning, la scientologie, c'est trouver un bon créneau dans la critique de la psychiatrie.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, avec cette magnifique intervention, on va passer à un bon morceau de musique aussi.
Thank you.
Du coup, nous venons d'écouter un morceau de Sonic Youth qui s'appelle Schizophrénia. Et alors, j'ai pas trop traduit les paroles, donc je vous laisse. Mais bon, je leur fais suffisamment confiance. C'est un chouette groupe.
Ouais, c'est vrai qu'en plus, il est bien, les morceaux. Ouais.
Il est vaporeux.
Voilà, comme ça. Alors, on va passer.
Complètement dans le repli autistique, schizophrène.
C'est ça. Alors, on va continuer à vous parler maintenant de l'Assemblée de Majadas de Barcelona. Alors, c'est un groupe de copains et de copines qui sont à Barcelone. On a déjà parlé quelques fois à l'émission, à l'antenne. Et cette fois-là, on s'est dit que ça valait le coup un peu d'approfondir un peu. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vous lire un texte qui sont écrits. Alors, voilà, c'est un texte qui ne dure pas très longtemps. Après, on va essayer de rebondir sur des trucs qu'on peut trouver que c'est intéressant. Alors, on y va. Here we go. Alors, la douleur qui traverse. Recommence. Señores y señoras, la douleur qui traverse beaucoup entre nous est le fruit de notre inadaptation. Même si notre manière d'être n'est pas quelque chose dont nous voudrions nous libérer. Nous n'avons pas l'intention de rentrer dans les moules d'une société qui nous justifie ou nous exclut systématiquement. Nous n'avons pas l'intention d'accepter les codes d'une société qui, depuis sa structure même, promue la violence et en même temps que la rendre invisible. Je pense que vivre en tant qu'inadapté, même s'il ne s'agit pas souvent d'un choix, est une grande opportunité afin de générer des réponses et d'inventer de nouvelles formes. Malgré le fait que la douleur que cela produit devient parfois insupportable, et surtout parce que ce monde est tellement bien pensé que nous décidons nous-mêmes de vivre cette douleur dans la solitude, et que nous décidons nous-mêmes de nous cacher derrière des masques et des cuirasses des épines que nous créons pour nous protéger, et n'est pas pour montrer vulnérable. Parce que prendre conscience de la farce dans laquelle nous vivons nous isole du reste de la grande masse des aliénés. Car pourrait apparaître alors l'angoisse qui vit à péter les plombs, aux tentations les plus incroyables des suicides, aux plus profondes des désespoirs existentiels. Nous, l'Assemblée de Majadas, avons donc décidé de nous rencontrer afin de générer un lieu en marge. Nous nous réunissons chaque semaine pour partager des questions autour des systèmes de santé mentale. Nous faisons les liens avec des autres aspects du système économique et politique. Nous avons l'intention de dénoncer les pratiques dérivées de la psychiatrisation de la société. Nous cherchons la transversalité avec des diverses luttes anticapitalistes. Nous proposons une fois par mois, en théorie, un espace ouvert pour pouvoir débattre et faire des ateliers sur plusieurs sujets, comme par exemple Femmes et Folies, les associations et ONG qui naissent avec les prétextes d'aider les personnes avec des problèmes psychiques et ses intérêts derrière, les groupes de soutien mutuel et les moyens aux capacités que nous avons pour nous soutenir, les stratégies de répression et du contrôle de la société qui sont identifiées dans chacune des expériences psychiatriques. Dernièrement, et depuis nous connaissons nos camarades de Toulouse, nous essayons de proposer des espaces avec des dynamiques différentes que les débats en grand groupe, où ce sont toujours les mêmes qui ont la parole. Des discussions en petits groupes ou même des groupes non mixtes. Au-delà de tout cela, et en parallèle, nous tombons souvent dans l'éternel débat au désir d'aller plus loin et transgresser les mots pour arriver à l'action. Parfois, nous avons l'impression que nous avons bien compris les engrenages du système et nous savons les discours que nous voulons affirmer, mais nous ne sommes toujours pas satisfaits ou nous ne pouvons pas nous en contenter. Certainement, il nous reste un long chemin à explorer, à conquérir. Alors voilà, ça c'est le petit texte des les Barcelonais. Que voilà, j'ai trouvé que c'était, il y avait quelque chose qui était intéressant. Alors voilà, c'est que moi j'ai trouvé que d'abord c'était bien, c'était parler de l'inadaptation, parce que bon, bien évidemment qu'on a une manière un peu différente de penser, mais bon, l'inadaptation ça arrive. Alors, mais c'est que eux, c'est que ses copines disent, c'est que l'inadaptation ça vient pas de son choix, même s'ils vont pas se libérer de ça, c'est aussi les systèmes, l'ordre psychiatrique et les systèmes généraux qui vont les mettre à l'écart. Après, on voit que cette copine, il veut aussi se mettre à la marche et ça ne lui pose pas un problème parce qu'il dit aussi qu'elle peut inventer de nouvelles formes de résistance ou de vivre. Et ça, c'est une chouette chose parce que ça peut permettre de faire une espèce de faiblesse ou un moment de répression, une force.
Et ça nous fait sortir aussi de la position de victime d'un système. Là, on se réapproprie une marge de manœuvre.
Tout à fait.
Ouais, puis le truc d'être en cohésion aussi, parce que la tendance à pas être dans la norme, ça pourrait t'exclure, mais si tu fais groupe d'exclus et que tu mets en place des solidarités concrètes et un soutien régulier, etc., tu souffres pas forcément du fait que la société elle veuille pas que tu ailles bosser chez Peugeot.
Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que cette idée de solidarité émotionnelle et tisser tous ces liens, c'est important. Ouais. Et après, voilà, en parlant de la douleur, parce que c'est intéressant aussi de parler, comme il dit que les systèmes ils nous forcent à être dans la solitude parce qu'on a honte de reconnaître qu'on a mal parce qu'on est inadapté. Alors voilà, on s'enferme dans notre solitude. Alors voilà, c'est une autre idée qui. Voilà, qu'il trouvait que c'était intéressant. Et même, il donnait ces samples assez forts, tu vois, que parfois, voilà, il nous force à péter les câbles.
Il y a un passage, là, où il parle de la violence qu'il crée et qu'il invisibilise. Je trouve ça chouette aussi, parce qu'effectivement, on est quand même victime d'un tout un tas de violences. Et donc, on y réagit. Mais donc, si c'est pas visible, on a l'impression qu'on réagit pour rien.
Oui, carrément. En plus, c'est vrai que déjà, c'est invisible. Alors, c'est complètement normal de pas être adapté à un système mortifère. Ouais, alors on a tout à fait les droits. Parfois, ils vont nous dire que c'est bien de s'adapter au monde, mais si le monde, c'est un monde cruel, voilà, on ne vaut pas trop, c'est normal, c'est quelque chose de raisonnable. Et aussi, une autre chose qu'il disait, c'est par rapport à l'organisation, il disait qu'ils se réunissaient une fois par semaine, de façon entre eux, et une fois par mois, ouvert. Essayez de trouver que c'était chouette, parce que ça pouvait permettre un peu un équilibre dans les groupes. Ils continuaient à tisser des liens assez intéressants entre eux, entre elles, et aussi voilà, pouvoir se soutenir, pouvoir parler des choses intéressantes. Et parfois, voilà, une fois par mois, ils s'étaient ouverts. C'est que ça pouvait permettre d'avoir une démarche publique aussi. C'est qu'ils pouvaient avoir des nouvelles personnes qui viennent et tout ça. Ça, c'était chouette. Et bien évidemment, c'est que ça m'a bien plu aussi, c'est la transversalité des luttes avec les luttes anticapitalistes. Parce que bien évidemment, si on veut finir avec les systèmes au l'ordre psychiatrique, mais voilà, on finirait pas... Si on ne finit pas avec le capitalisme, avec l'État, avec l'autorité. Et bon, c'est vrai que parfois, ça, on l'oublie un peu de les dire dans tous ces discours un peu antipsychiatriques et tout. Mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant qu'elle dise ça. Et bon, un peu en lien avec cette idée de finir avec le capitalisme, bon, il parlait aussi de transgresser les mots et arriver à l'action. Et bon, bien évidemment, ça, on avait parlé la semaine dernière, comment on pourrait arriver à avoir un discours public, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir que de notre petit discours ou une émission de radio. Et voilà, c'est vrai qu'en soi-même prendre la parole en public, c'est une action, et c'est même le premier pas à rendre publique ta position. Mais après, c'est vrai qu'il y a des choses à faire aussi. Et voilà, et pour finir, ce que j'ai trouvé que c'était intéressant, c'était aussi qu'il était assez humble, parce qu'à la fin il disait qu'il avait un peu peur mais voilà, qu'il n'était pas tout à fait satisfait avec son point de vue sur ce qu'il pouvait affirmer. Et voilà, c'est un peu normal, parce que c'était un peu critique et autocritique avec toi-même. Mais voilà, tu ne vas pas être complètement autocomplaisant. Et voilà. Et apparemment, il a tous les chemins à explorer et à conquérir. Voilà, ça c'était chouette.
Merci pour le texte.
Moi, merci à les copines, c'est sympa. Et allez, bon, je vais passer notre petit morceau de musique et après, on continue. Allez, here we go. Yeah.
T'avais quelque chose à dire,
oui, qu'est-ce qu'on a écouté, David?
Ah ouais, on vient d'écouter un morceau qui est d'un groupe qui s'appelle Anarxis. Et voilà, c'est assez intéressant. C'est les gens qui habitent pas très loin et qui sont pas mal des textes dans ces morceaux de musique autour, voilà, autour de la folie, les médicaments et tout ça. Et que peut-être on pourra avoir l'occasion de les interviewer une fois, faire une émission du genre folie et musique, oui, ou quelque chose comme ça.
Voilà le programme.
Voilà, c'est ça, pour une prochaine fois. Ouais. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui connaît un peu les groupes, peut-être qu'il pouvait un peu rebondir. Mais... En tout cas, c'est, voilà, c'est des gens chouettes.
D'accord.
Voilà.
Bon, alors, moi, je ne vais pas vous parler d'un groupe de gens qui est soit en Allemagne, soit en Espagne. Je vais vous parler...
Soit dans Gers.
Je vais vous parler d'un livre qui est sorti qui s'appelle « On agite un enfant » qui a été écrit par Yann Diner. Yann Diner, c'est un... Alors, pour le coup, c'est un psychanalyste. Il a un petit peu lutté contre la position très corporatiste des psychanalystes qui, lorsqu'il y a eu le grand débat sur les psychothérapeutes, ont tout de suite formalisé leur groupe pour être sûrs d'être reconnus et donc ont largement favorisé la mise en place de ce titre, un peu en mode collabo. Parce que ce titre va ouvrir quand même à court terme... une technicité du thérapeute. On n'aura plus des études larges, on sera juste tenancier de la psychothérapie et donc expert du soin. Bon, du coup, Yann Diner nous a écrit un livre qui s'appelle « On agite un enfant ». Il parle surtout de cette mouvance actuelle, alors actuelle, c'est-à-dire depuis 2000 en France et bien antérieure aux États-Unis, de prescrire pour les enfants qualifiés d'hyperactifs, c'est-à-dire agités, de la ritaline. Alors la ritaline, c'est quoi ? La ritaline, c'est une amphétamine qui a été synthétisée pendant la guerre et c'est en gros un produit qui au départ a servi de substitution à la cocaïne. Il faut savoir que ce produit, quand on le donne à un certain dosage, il a le don de tasser les gens. Parce qu'à petite dose, l'amphétamine nous speed, mais à grosse dose, elle nous tasse. En tout cas, il a été distribué tout d'abord dans les écoles américaines. Et chaque école percevait une prime proportionnelle au nombre d'enfants qui étaient mis sous Ritaline. On voit bien quand même l'insertion du financier dans le soin. C'est en vente libre aux États-Unis. Il y a des médecins français qui expliquent qu'ils se retrouvent avec des jeunes qui arrivent en France, par exemple, pour des projets Erasmus, et qui viennent en urgence voir les médecins parce qu'ils s'aperçoivent qu'en France, il faut une ordonnance pour avoir de la ritaline, et donc ils sont en manque. Tout ça pour mettre un petit peu à jour quand même une sorte de médicalisation de nos émotions. Alors, les Américains sont très, très en avance. Ils ont une stratégie en marketing. Carrément, ils construisent des constructions de campagne pour sensibiliser la population sur diverses pathologies imaginaires. Et il faut savoir que malheureusement, une pathologie imaginaire, très très vite, elle devient réelle, elle prend de la place et elle devient une représentation qu'on se dit qu'on a.
C'est une prédiction autoréalisatrice.
Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que, bon, je vous parlerai après, ils ont de beaux projets pour nous. Cette stratégie marketing, ça s'appelle la disease mongering. C'est vraiment diffusion de la maladie. C'est très clair, hein, c'est nommé dans l'intitulé. Et donc, il promeut la maladie en même temps qu'il promeut le médicament. Et on met tout ça en route. Il y a un certain nombre de médecins, notamment de médecins français, qui ont reconnu avoir été payés pour décrire les symptômes de l'hyperactivité et pour l'inscrire au nouveau DSM, le DSM-5, qui va rentrer. Alors, il faut savoir que le DSM-5, qui est un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, a la particularité d'être en fait un catalogue de signes, ce qui favorise énormément... Ben, je vais vous lire la définition, carrément, vous allez comprendre. Trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, ça c'est le THAD, le fameux trouble qu'on soigne par Ritaline. Et donc la définition, c'est se caractérise par l'association à degré variable de symptômes d'inattention, d'impulsivité ou d'hyperactivité chronique ou envahissant, inadapté à l'âge du développement et responsable d'une altération du fonctionnement. Dans cette définition, il y a quand même une jolie perle, c'est à degré variable. Alors, qui est-ce qui va interpréter ça ? Qui va déterminer que le degré variable est donc prescriptif de médicaments ? Ça, on suppose que c'est le psychiatre, et donc c'est au libre arbitre de celui qui prescrit. En tout cas, tout ça pour dire que ben, on est vraiment dans une mutation sémantique, c'est-à-dire... Avant, on était du côté de la recherche du sens, toute cette logique psychanalytique qu'il y a eu pendant un bon moment. Et là, on est vraiment dans une logique plutôt néolibérale où on transforme les pratiques. Et donc, on est du côté d'un champ lexical de de symptômes que on va pouvoir retrouver chez tout le monde et que donc on va pouvoir médicaliser chez tout le monde. Si on va sur le site, je retrouve ma petite feuille, elle est où ? Sur le site de TDHA en France, qui est tdah-france.fr, il y a une petite sigle qui nous promet que les adultes aussi, il va falloir s'en occuper, qui dit « Votre trouble de l'attention mérite notre attention ».
J'aime bien quand même aussi dans la citation le inapproprié en fonction à l'âge. Comment c'est ?
Inadapté à l'âge du développement et responsable d'une altération.
Ouais, inadapté à l'âge du développement, donc ça suppose qu'il y a un certain âge de la vie où on pourrait légitimement et sans être questionné être hyperactif. Par exemple, quand on est banquier, quand on est boursier, on a le droit d'être hyperactif, hyperspeed.
Et voir, c'est valorisé. Ouais. Et il nous propose, alors le médicament n'est pas encore sorti, mais c'est un médicament qui s'appelle Concerta. Je pense qu'on va en entendre parler dans pas très longtemps. Ils nous ont fait déjà ça avec une maladie qui est très en vogue aujourd'hui, c'est la dépression. Qui est aujourd'hui...
Journée mondiale de la santé mentale. L'OMS attire votre attention sur la dépression dans le monde.
Et donc, on pourrait peut-être rajouter un petit R avec Prozac derrière. Ça serait beaucoup plus honnête.
Et même la pharmaceutique qui l'est fait aussi, peut-être, on pourrait mettre le tri aussi.
Après, donc Yann Diner fait référence à Roland Gori et Marie-Josée Del Volgo, qui ont écrit un livre qui s'appelle « Santé totalitaire » et je voulais vous en lire un petit passage. Il reviendrait à la parole démocratique, alors Roland Gori est démocrate, pour la démocratie, il reviendrait à la parole démocratique de mettre en garde l'opinion contre cette entreprise totalitaire d'administrer scientifiquement et rationnellement le vivant, de médicaliser et de pathologiser l'existence, de traduire sans réflexion critique un fait scientifique partiel en fait politique total. Donc, pour cette logique quand même, dans les écoles par exemple, quand on se retrouve avec un enfant hyperactif et étiqueté hyperactif et qu'on lui donne de la ritaline, c'est quand même une juste façon de déresponsabiliser tout le monde sur qu'est-ce que peut vouloir dire un enfant qui tient pas en place et qui court dans tous les sens. On donne une pilule et on cherche pas à comprendre ce qui pourrait être la source de... On en revient à ce que disait tout à l'heure le groupe Barcelone, qui est que cette inadaptation, surtout, ne la questionnons pas. Et là, pour le coup, c'est un fait politique totalitaire de ne pas questionner les causes et les effets sur les gens de la société.
Légitimité de la discipline à tout prix et de personnes qui bronchent au fond de la classe, etc.
Comment on instrumentalise la notion de trouble mental. C'est un trouble qui devient un trouble.
Bien trop perturbant.
Mais ouais, c'est incroyable tout ça. C'est vrai que moi, hier, j'étais en train de lire un bouquin et il y avait une petite citation qui disait que la schizophrénie, c'est une citation de 1904, il disait que la schizophrénie, c'était tout simplement pas obéir à chez ses parents. Et voilà, c'est vrai que c'est une jolie définition. Il n'est pas très loin de la réalité des médecins maintenant. Ouais.
Et juste un petit truc que j'ai oublié qui me paraît important. Si vous avez des enfants qui prennent de la ritaline, il y a quand même beaucoup de médecins qui demandent à l'arrêter pendant les vacances parce qu'ils s'aperçoivent que ça a une interaction avec l'hormone de croissance.
J'ai les yeux sur un truc. Sur le rythme cardiaque aussi. C'est un impact cardiaque qui peut être délétère. Un décès par arrêt cardiaque chez un gamin de 8 ans, c'est quand même pas si courant.
C'est clair.
Ah, c'est affreux, hein. Bravo la ritaline.
Ouais.
Et bon, mais on va dire qu'on va bientôt finir, non ? C'est l'heure de passer les relais aux copines de Wael.
Ouais.
Et voilà, on est à la sixième émission déjà, bientôt la septième.
Et est-ce qu'on vous annonce des thèmes en vrac ? Allez. Par exemple, on a pensé à des thèmes des prochaines, on vous les fait dans le désordre, comme ça vous serez obligé de les écouter dans l'ordre, pour savoir. Donc, folie et musique, hop, voilà, hop là, ça fait un nouveau. Une émission sur Marge.
Marge,
un groupe des années 70.
Et c'était quoi, Marge ? Tu pouvais dire...
Qu'est-ce que parce c'était, Marge ? C'était un groupe de marginaux.
Marginaux, c'était des PD, des...
Des fous.
Même des prostituées, tout ça.
Des noirs.
Des fouteurs de bordel. Il y aura une émission sur l'autisme. Donc voilà, y a de quoi dire, hein, puisqu'entre le plan autisme, la bataille autiste, psychanalyste contre comportementaliste, tout ça, il y a matière. On s'est dit on ferait peut-être une émission sur l'HP comme institution. Alors, ça peut être l'histoire de l'HP, ça peut être comment ça marche en HP aujourd'hui, les rapports de force à l'intérieur de l'HP, comment on arrive à survivre dans l'HP. Il y a matière.
Ah, il y a de quoi faire, ouais.
Ouais. Un truc, une émission sur les mouvements américains autour de la psychiatrie.
Nord-américain.
Nord-américain, tout à fait, autour de la critique de la psychiatrie, parce que ben on commence à être bon en anglais, alors.
Tout parle. Sure.
Sure. Du coup, voilà, bon, il y a des trucs intéressants à voir aussi de l'autre côté. Parce que quand même, on s'est dit, ok, parler toujours années 60-70, c'est bien joli, mais dans notre monde contemporain, soyons un peu géographiques, eh ben, il se passe des choses qui sont correspondantes. Donc, voilà, pourquoi pas les US. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit
les groupes locaux, peut-être on a envie de faire un peu le tour de Toulouse et aller à la rencontre des groupes d'entraide mutuelle, des groupes de bipolaires, voir un petit peu ce qui est proposé à Toulouse et avoir un petit regard critique, ouvert et descriptif pour savoir un peu ce qui se passe ici.
C'est clair. Et même ça sert à bien qu'une prochaine fois, on a oublié de les dire, mais ça peut être bien que les gens nous appellent.
Ah oui.
Et voilà, comme ça, une prochaine fois, ils peuvent nous appeler pour nous interpeller, pour nous dire oh, c'est vraiment la merde ce que tu as dit. Oh, c'est vraiment bien. Oh. Voilà.
Et peut-être on s'était dit aussi tout un questionnement sur le comparatif à établir entre l'handicap physique et l'handicap psychique, toute cette culture du validisme qui est dans notre société.
Et du coup, quelle est la pertinence du terme handicap psychique ? Parce que c'est apparu avec la loi de 2005, ça a réjoui un certain nombre de gens, mais d'autres en sont atterrés. Et voilà. Qu'est-ce que ça implique que de se dire handicapé psychique, quoi ?
C'est diminuant, mais oui.
Ouais. Ouais. C'est clair.
C'est plein de choses, ouais.
Bon. Voilà, on va se dire que dans deux semaines, c'est la rediffusion de cette émission.
Tout à fait.
Et dans un mois, et voilà, on se verra encore en direct.
Ouais. Le 7 novembre.
7 novembre.
A priori.
A priori, ouais, je crois qu'on sera là. Ouais.
Et que peut-être entre-temps, eh ben, on va arriver à reprendre les rencontres sur Toulouse.
Ouais, tout à fait.
Si tout se passe bien.
Ouais, si nous les hélicos et tout ça. Mm. Bueno, pues venga, dans un mois.
Ouais.
Ouais.
Salut.
Salut. Salut.
Crío cuervos.
¡Ah! Crío cuervos.